Eh bien, bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, on comptait vous donner quelques aspects sur la bioéthique. Et avant tout, je voulais vous rappeler d'où est née cette question d'éthique dans les sciences. Ça date du procès de Nuremberg en 1948, où ont été condamnés un certain nombre d'atrocités qui ont été menées lors de la guerre, soi-disant au titre de la science, alors que ce n'était que des atrocités. Donc là est née plutôt l'éthique médicale. Et au cours des années 60-70, même un peu plus tard, il y a eu un essor de la science. Et cet essor a amené un questionnement éthique, philosophique, sur les tenants et aboutissants des découvertes que l'on allait faire. Et donc aujourd'hui, pour un peu vous illustrer ces questions de bioéthique, on a fait un choix de deux thèmes, mais ce n'est pas du tout restrictif. Un thème sur les cellules souches et un thème un peu plus en mouvance encore actuellement qui concerne les neurosciences. Mais on pourra bien sûr élargir le débat bien au-delà de ça. Mais bon, on a fait ce choix initial et on élargira le débat au fur et à mesure. Alors pour les cellules souches, j'aime bien replacer ça dans un contexte de régénération chez l'animal. Ça n'a rien à voir avec la bioéthique, je suis bien d'accord. Mais on s'y intéresse parce qu'il y a des animaux qui régénèrent très bien certains de leurs appendices. Par exemple, l'écrevisse. L'écrevisse est capable de régénérer une patte quand elle la perd. Et c'est René-Antoine Ferchaud de Réaumur qui s'était intéressé au XVIIe siècle, XVIIe siècle, à ces questions. À peu près dans la même période, il y a eu deux autres chercheurs. Abraham Tremblay qui s'intéressait à la régénération de l'hydre. L'hydre est un animal absolument extraordinaire qui est capable de régénérer n'importe quelle partie de son corps. Et d'ailleurs, à partir de n'importe quelle partie de son corps, on peut refaire un animal entier. C'est assez extraordinaire. Et puis, on peut le considérer comme le champion de la régénération. Et puis, il y a eu Charles Bonnet qui, lui, s'était intéressé à la régénération chez la salamandre, en particulier les pattes ou la queue, qui se régénèrent très, très facilement dans ces espèces. Et alors, et nous, nous, quand on perd un bras, malheureusement, on ne régénère pas. C'est bien dommage. Enfin, ça s'enlèverait du travail aux médecins. Et cette régénération, on l'a néanmoins pour certains aspects. Par exemple, on refait régulièrement des cellules du sang. On refait aussi régulièrement des cellules au niveau de la peau. On a à peu près 2 mètres carrés de peau qui sont renouvelées tous les 21 jours, ce qui n'est pas rien. On refait aussi des cellules au niveau de l'intestin. Et puis, on a des tissus qui, malheureusement, se renouvellent de manière extrêmement limitée, voire très très peu. Et si j'ai amené cette question des cellules souches, c'est qu'elle a été au cœur des débats médiatiques qui ont été proposés par la recherche, les magazines scientifiques, la recherche et Science et Vie. Donc, en 2005, la recherche titrait « Les cellules souches, un espoir, un défi ». Donc, ils estimaient que ces cellules pouvaient générer d'autres cellules et ils représentaient ça de manière imagée comme un arbre à partir duquel on allait cueillir ses organes. Alors bien sûr, c'est une image, c'est poétique, ce n'est pas tout à fait la réalité des choses, mais néanmoins, ça illustrait bien les concepts auxquels on aimait aboutir. Et puis, vous avez d'autres magazines, donc la Science et Vie, qui lui titrait qu'elle repoussait les limites de la vie. Alors c'est vrai et c'est faux. Elle repousse les limites de vie quand il y a des atteintes pathologiques, notamment par exemple, on le sait, avec la greffe de moelle osseuse. Donc c'est au cours du début des années 2000 qu'il y a vraiment eu un essor, il y a eu un regain d'intérêt pour les cellules souches dans la société. Et d'ailleurs, ça a été une période de très riches débats sur ces questions de cellules souches. Alors, pour parler des cellules souches, j'aimerais bien qu'on sache de quoi on parle. Donc, une cellule souche, c'est une cellule qui est capable de générer une nouvelle cellule souche, donc est capable de se multiplier à l'identique. Et c'est une cellule qui va être capable de générer plusieurs types de cellules. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cellules souches dans l'organisme ? Eh bien, on va se replacer dans notre vie, dans le contexte de notre vie. On est tous nés d'une cellule, à partir d'une cellule qui est la cellule œuf, qui est ici à gauche sur ce schéma, ou le zygote. C'est une cellule souche qui est capable de générer l'individu et ce qu'on appelle les annexes embryonnaires, donc par exemple le placenta. Cette cellule se divise rapidement au cours des premiers jours de la vie. Et puis, il arrive, à peu près au bout d'une semaine, une structure qui est représentée ici, qu'on appelle un blastocyste, mais c'est une structure où on trouve en périphérie les cellules qui vont générer les annexes, donc par exemple le placenta, et au centre, alors il n'y a pas de rond rouge, hein, c'est moi qui l'ai rajouté, au centre des cellules, une masse cellulaire interne qui va être à l'origine de l'ensemble de nos cellules dans l'organisme. Et c'est à partir de ces cellules-là que l'on a produit, que l'on a généré, ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires ou cellules ES, qui ont fait l'objet de nombreux débats éthiques, sociétaux, au cours de ces 10 dernières années. Alors, ces cellules-là sont capables de générer tout type de cellules de l'organisme adulte, donc elles sont pluripotentes. Par contre, elles ne génèrent pas d'annexes embryonnaires. Et donc, si on récupérait une de ces cellules ES et qu'on l'implantait à une femme, par exemple, eh bien, on ne ferait pas d'embryon. Alors que si on prend la cellule œuf, ici, la première cellule d'origine, et qu'on l'implante à une femme, il va y avoir donc genèse de l'embryon et des annexes. Donc ces cellules donc ES sont les cellules souches pluripotentes. Et puis un peu plus tard, eh bien, on grandit et on garde encore des cellules souches au niveau de la peau, au niveau de l'intestin, du foie, de la moelle osseuse. C'est celles qu'on connaît très bien. Et puis plus récemment, ont été découvertes des cellules souches dans un tissu qu'en général on regarde de manière assez peu agréable, le tissu adipeux. Alors, ce tissu adipeux est riche en cellules souches. Alors, j'ai des collègues qui travaillent sur le tissu adipeux et qui m'expliquaient qu'ils passent dans les cliniques de chirurgie esthétique, ils récupèrent les déchets opératoires et en général, ils ont très peu de difficultés à obtenir le consentement des patients qui pleurent rarement leurs déchets opératoires. Donc le tissu adipeux est riche en cellules souches. Il va bien sûr générer des cellules adipeuses, mais ce n'est pas ça vraiment en général qui intéresse. Il va générer aussi d'autres types de cellules, tout au moins in vitro. On peut en faire des cellules de cartilage, des cellules même nerveuses, dans des contextes, mais in vitro dans des boîtes, hein, pas quand on l'implante dans le tissu, dans l'organisme. Et puis on a trouvé aussi, il n'y a pas très longtemps, des cellules souches au niveau du nez. Et ces cellules souches du nez ont un mérite assez exemplaire, qui est qu'elles sont capables de faire de nouveaux neurones. Donc en fait, tous les jours, on refait des nouveaux neurones au niveau de ce qu'on appelle l'épithélium olfactif, donc dans le nez, structure qui sert à sentir les odeurs. Et donc ce n'est pas forcément pour la détection des odeurs que s'intéressent les personnes qui travaillent sur ces cellules souches du nez, c'est plutôt pour leur capacité à faire des neurones. Et donc un de mes collègues qui est à Marseille récupère ces cellules souches donc neurales au niveau du nez et les implante chez des souris et des rats qui ont eu des lésions pour réparer les lésions cérébrales. Et bon, sur les souris et les rats, ça marche pas mal. On n'en est pas encore là sur l'humain. Mais néanmoins, la fenêtre que cela ouvre, c'est que on pourrait imaginer récupérer ces cellules souches au niveau du nez. C'est assez facile. Enfin, d'après les ORL, c'est très facile. Et puis les greffer de manière autologue aux patients si c'est intéressant. Et puis, pardon, il y a une dernière structure, en plus je passe à côté, c'est celle sur laquelle je travaille. Il y a une dernière structure qui a été identifiée comme contenant des cellules souches, mais c'est beaucoup plus récent. Il a fallu attendre vraiment à la fin des années 90, presque le nouveau millénaire, pour accepter que le cerveau contient des cellules souches capables de faire des nouveaux neurones tout au long de la vie. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on fait des nouveaux neurones, y compris lorsqu'on est très âgé. Tout au long de notre vie, on génère ces neurones. Ça, vous n'êtes pas d'accord, ça vous surprend?
Non, je pense qu'on en génère moins que ce qu'on en perd.
Ah, on en génère moins qu'on en perd. Enfin, surtout, on ne gère pas forcément le même type de neurones que ceux qu'on perd. Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'on en gère, on en génère un nombre assez important, mais le problème, c'est qu'ils ne font pas forcément... forcément ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Voilà. Bon, en tout cas, on en fait déjà. Voilà. Et surtout dans des structures qui interviennent dans la mémoire aussi. Ah. Et d'ailleurs, plus on s'entraîne sa mémoire et plus on fait des neurones au cours de sa vie. Donc, ou même si on fait de l'exercice physique, on a aussi plus de neurones au cours de sa vie. C'est une parenthèse. On est hors éthique. Donc si je reprends l'ensemble de ces cellules qu'on a à disposition, donc il y a la cellule œuf totipotente, mais celle-là, je n'en parle plus. Les cellules souches embryonnaires ES, qui sont capables de générer tout type de cellules de l'organisme adulte. Hein. Et puis, on va pouvoir récupérer des cellules chez l'individu adulte, alors aussi dans le sang de cordon ombilical, donc c'est pas chez l'adulte, mais c'est chez l'enfant qui vient de naître, enfin dans le cordon. Et alors, ces cellules souches adultes ont bien moins de potentiel que les cellules souches qu'on pourrait récupérer chez l'embryon. Néanmoins, par rapport à ce qui se passe avec l'embryon, quand on prend des cellules souches chez un adulte, par exemple la moelle osseuse, on ne détruit pas le donneur. Par contre, si on prend les cellules souches embryonnaires, on détruit la source qui est à l'origine donc, de ces cellules. Alors, comment génère-t-on ces cellules souches embryonnaires? D'où viennent-elles? Là, un petit peu d'histoire. On a découvert ces cellules souches embryonnaires de souris au cours des années 70, donc c'est pas si vieux que ça. Un peu plus tard, elles ont été cultivées, isolées, donc 10 ans plus tard, cultivées, isolées chez la souris. Il a fallu attendre 1998 qu'aux États-Unis, James Thompson soit capable de cultiver des cellules souches embryonnaires humaines qui étaient issues d'embryons surnuméraires provenant de fécondation in vitro. Alors, ces embryons sont dits surnuméraires parce qu'ils ne sont pas utilisés pour générer un nouvel enfant. Et ça a été fait dans un contexte dans lequel les parents ne voulaient plus de cet embryon. Donc avec, bien sûr, aussi le consentement des parents pour qu'ils soient utilisés pour faire des cellules souches embryonnaires. Donc c'est à cette époque-là qu'a commencé le travail sur les cellules souches embryonnaires. Et donc là se pose clairement un questionnement éthique sur ces cellules souches embryonnaires. Alors je vais un petit peu cibler quelques questionnements éthiques. Je vais finir la présentation des différents types de cellules souches. Et puis on passera sur les questionnements éthiques après avec M. Claes, qui est bien plus à même d'en parler que moi. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse quand même à ces cellules souches embryonnaires, même si on se questionne sur la question de leur utilisation? C'est parce qu'elles ont une prolifération bien plus importante que les cellules souches adultes, hein, qu'elles sont plus faciles, j'ai mis des guillemets, à obtenir que chez l'adulte. Si on veut récupérer des cellules souches de cerveau chez l'adulte, il faut faire un trou. Enfin, bon, dans le cerveau, on va éviter, voilà, par exemple. Elles sont pluripotentes, elles ont des potentiels extrêmement larges. On peut faire du cœur, du foie, du poumon, du cerveau, enfin des cellules de cerveau, etc. Donc elles ont un potentiel très large. Comme les cellules souches adultes, elles peuvent être cultivées en laboratoire, puis être utilisées. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes éthiques et on peut être confronté éventuellement à un risque de rejet de greffe quand on greffe à des patients. Néanmoins, il y a des essais cliniques en cours, juste, alors vous n'avez pas besoin de le lire, ça date de 2012. En 2012, est sorti dans une revue scientifique destinée aux médecins et aux scientifiques, est paru une donnée sur les premiers essais cliniques qui se font à partir de cellules dérivées de ces cellules souches embryonnaires pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Premier essai clinique, alors, qui a été fait avec 24 patients au bout de 4 mois, la seule question qui se posait, c'est est-ce que le traitement est sûr? Donc, a priori, ils n'ont pas vu de tumeur, ils n'ont pas vu de difficulté avec les cellules qu'ils ont greffées à ces patients. Je n'ai pas la suite du résultat. Bon, enfin, ce n'est pas encore publié. Alors, ça a été fait aux États-Unis, ce point-là. Alors, quand on se place dans un contexte de médecine régénératrice, on se demande tout le temps, est-ce que nous, finalement, on ne pourrait pas régénérer aussi finalement, des parties de membres qui nous manqueraient, des cellules qu'on souhaiterait avoir. Alors là, je vous ai mis le titre d'un ouvrage d'Axel Kahn, hein, Le secret de la salamandre. C'est un livre passionnant à lire. Hein, oui, il est passionnant. Je pense qu'il est très accessible. Et bon, certes, je n'ai pas demandé l'autorisation de faire la publicité de son livre, mais je ne pense pas qu'il me dira quoi que ce soit. Et je n'ai pas de droit de royalties sur cette publicité non plus. Voilà. Donc ce secret-là, c'est la salamandre, on aimerait bien le percer. Donc on peut bien sûr prendre des cellules souches adultes, dans la limite bien sûr, de ce qu'on peut faire en prélevant du tissu humain. C'est prévu dans des conventions, telles que la convention d'Helsinki, où on a défini le cadre de recherche médicale. Donc j'ai mis entre guillemets, c'est autorisé, c'est possible. Sur les cellules souches embryonnaires, actuellement, il est possible de mener des recherches sur ces cellules souches embryonnaires en France, on peut le faire. Et suite à un long débat qu'il y a eu pendant presque 10 ans, je pense, enfin, je m'avance un peu, mais on risque d'être confronté à un problème qui est le rejet de greffe. Donc si on ne veut pas avoir de rejet de greffe, il y a une solution qui serait de prendre ses propres cellules souches et se les réimplanter. Donc là, vous n'avez pas de rejet de greffe, c'est une greffe autologue, donc vous n'avez pas de risque. Mais on s'est dit, ce n'est pas toujours évident de prendre ses propres cellules souches. Donc d'autres idées sont parues. Et parmi ces autres idées, je voudrais vous signaler quelques autres qui datent de concepts qui ont émergé dans les années 60 et pour lesquels John Gordon, que vous avez là en photo, enfin, il est un peu plus âgé maintenant, a partagé le prix Nobel il y a 2 ans, prix Nobel de médecine il y a 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est juste pour vous montrer que les recherches peuvent paraître peut-être loin de préoccupations médicales au moment où elles paraissent, ou au moment où elles sont publiées, et que 40 ans plus tard, on se rend compte que c'était absolument visionnaire pour la suite des choses. Alors, ça donne un espoir, mais ça fait long, 40 ans. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait comme travail? Il avait pris des tétards dont il avait récupéré des cellules d'intestin. De cette cellule d'intestin, alors il aurait pu prendre autre chose, mais il a pris l'intestin. De cette cellule, alors une cellule d'intestin, c'est une cellule qui ne va pouvoir fonctionner qu'en cellule d'intestin. Donc elle va fabriquer des protéines de cellules d'intestin et va assurer ses fonctions. De cette cellule, il a enlevé son noyau et il a remplacé le noyau de cette. Et, pardon, il a enlevé le noyau, et il a pris ce noyau et l'a transféré dans un ovocyte de grenouille, ovocyte dont il avait pris le soin d'enlever son noyau. Donc en gros, il a pris le noyau de cette cellule d'intestin qu'il a mis dans cette cellule d'ovocyte. Quand il est dans la cellule d'intestin, le noyau va servir à fabriquer des protéines de cellules d'intestin, peu importe ce qu'elles sont. Et il a pu constater que quand il prenait donc ce noyau, qui est le greffé dans cet ovocyte, eh bien, ce noyau-là était capable d'activer des gènes, de générer tout ce qu'il faut pour permettre le développement embryonnaire. Et à partir de cette chimère, il a pu obtenir un nouveau tétard qui avait les caractéristiques du tétard qui avait donné le noyau de la cellule d'intestin. Donc ce que ça a montré, c'est qu'il était possible de faire des choses de faire des clones, si on veut, de tétards à partir d'un noyau, et qu'il était aussi possible, dans une cellule qui paraissait très très différenciée, d'être possible de retourner vers un stade beaucoup plus précoce au cours de la vie, à partir du même noyau. Alors à partir de ça, on émergeait deux grands types d'idées. La première, la première concerne ce qu'on appelle le transfert nucléaire ou clonage thérapeutique. Alors, en quoi cela consisterait? Eh bien, cela consisterait à imaginer qu'on a un patient dont on récupérerait son noyau, enfin un noyau d'une cellule. On fait une prise de sang, il y a plein de noyaux de cellules, on en prend un. On prend un noyau de cellules et on récupérerait un ovocyte de femme dont on enlève le noyau de l'ovocyte. On mettrait ce noyau de la cellule de patient dans cette cellule-là et on générerait des cellules souches embryonnaires qui seraient identiques aux patients. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le transfert nucléaire ou clonage thérapeutique. C'est une perspective qui a été envisagée dans certains pays en Europe, mais en France, la réponse a clairement été non, pour une raison très simple, c'est qu'il faut trouver des ovocytes. Et les ovocytes se trouvent chez les femmes, pas vieilles, en âge de procréer. Et donc, on risquait de déclencher un marché sauvage, si je puis dire, de dons d'ovocytes. Surtout parmi les personnes les plus pauvres. Donc, c'est la raison pour laquelle il a été clairement interdit ce clonage thérapeutique en France. Il y a d'autres pays qui l'autorisent, mais la position française a été celle-là. Et puis, il faut aussi savoir qu'avant d'obtenir un clone, il vous en faut pas mal d'ovocytes. Il vous en faut pas loin d'une centaine. Donc, c'est-à-dire, il faut 10 femmes pour avoir assez d'ovocytes pour quelque chose qui est plus que risqué et limité. Donc celle-là, j'oublie. L'autre perspective plus récente, à des travaux donc, de Gordon, a permis d'obtenir ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites, que moi j'ai qualifiées de manière un peu plus simple, les cellules souches de type embryonnaire à façon. Alors ça repose sur le concept que je vous ai évoqué tout à l'heure et celui de Waddington, qui était un chercheur qui, dans les années 1920, avait proposé que nos cellules évoluaient dans un paysage qu'il avait qualifié d'épigénétique. Et donc là, pour représenter ce paysage, il vous met des montagnes, des vallées, etc. Au début de la vie, la cellule souche embryonnaire serait en haut de la montagne épigénétique. Et elle verrait en bas tous les potentiels possibles. Au fur et à mesure qu'elle se divise, elle génère des cellules qui vont s'engager dans l'une ou l'autre des vallées. Et si cette cellule s'engage dans la vallée ici à gauche, elle ne pourra générer ici que des cellules nerveuses ou des cellules de peau. Donc, chaque fois qu'elle s'engage, si elle s'engage dans la vallée de droite, par exemple, elle pourra générer des cellules de pancréas. Et donc, le concept qui est arrivé en courant 2008, c'est celui des cellules souches pluripotentes induites. Et on s'est dit, puisque pendant la vie, les cellules descendent ce paysage épigénétique, on n'a qu'à imaginer qu'on leur fait remonter cette montagne, comme quand on est en promenade en montagne. Alors, c'est vite dit. Alors, ça a été fait par Yamanaka, qui a partagé le prix Nobel avec John Gordon en 2012, qui a créé ces cellules souches embryonnaires à façon. Et donc, grosso modo, il a mis des gènes dans des cellules qu'il avait récupérées de la peau, qu'il a cultivées dans des boîtes. Tout ça a été fait en laboratoire, dans des boîtes de culture. Il a inséré un certain nombre de gènes, les a cultivés dans des conditions bien particulières. Et il a pu obtenir comme ça des cellules qui ressemblaient en tout point à des cellules souches embryonnaires, capables de générer tout type de cellules, donc du tissu nerveux, de la peau, des cellules intestinales, etc., capable d'avoir un certain nombre de caractéristiques aussi in vivo. Et donc, il les a appelées cellules souches pluripotentes induites. Ce sont des cellules ES qu'on induit à partir de cellules différenciées. Donc, elles sont bien pluripotentes, mais c'est induit. Donc, c'est ce qui a été généré. Alors, actuellement, Yamanaka est japonais. Actuellement, on a, en 2013, sont parus un certain nombre d'articles. On a pu carrément faire un petit foie qui est vascularisé, qui a des fonctions à partir de ces cellules IPS. Alors, ça a été fait un petit organe, on n'a pas refait un foie complet. Et puis, depuis juillet 2013, au Japon, il y a les premiers essais cliniques qui sont réalisés à partir de ces cellules souches péripotentes induites pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc voilà un petit peu un aperçu de ce que sont ces cellules souches. Donc on a les cellules ES, totipotentes, pluripotentes, les cellules souches adultes où on ne détruit pas la source, et les cellules IPS, donc on fait remonter le temps finalement à une cellule. Alors vous allez me dire, les IPS sont parfaites, pourquoi on ne fait pas que ça? Un, ça ne fait pas longtemps qu'on les connaît, ça c'est une vraie raison. Et deux, il y a aussi des problèmes éthiques, mais je vais laisser un peu la parole à M. Kless sur les questions éthiques liées aux cellules souches, et on prendra la suite, on lancera le débat.